Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde émission que Françoise Gernot a intitulée « Le citoyen et la patride ». Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylviane, bien sûr.
Et dans cette première émission, vous aviez surtout parlé d'Aristote, vous aviez abordé Jean-Jacques Rousseau qu'on va reprendre là maintenant, mais vous aviez déjà fait allusion à Hannah Arendt avec une expression qui est très forte, un apatride est la lie de la terre.
Et les apatrides sont la lie de la terre, nous y reviendrons.
Oui. Alors, ce sont les trois auteurs en fait que vous avez choisi.
D'abord, mon interrogation première portait sur la notion de citoyen et toute la construction philosophique qui a pu être édifiée pour penser justement le citoyen, la citoyenneté. Entre parenthèses, le citoyen est toujours présenté comme celui qui a une activité, une possibilité d'action dans la gouvernance de la cité, le gouvernement de l'État.
Bien. Alors j'avais fait une remarque, les femmes ne sont pas citoyennes.
Oui, notre remarque est bien tardive parce que nous avions oublié les femmes, ce qui est tout de même un comble
vous
pour nous
deux. Vous avez fait la remarque, l'homme, est-ce que c'est l'humain ? Non, c'est le mâle.
C'est le mâle, oui.
Donc des enfants de citoyens n'étaient pas nécessairement non plus citoyens.
Oui, alors ceci est un autre problème. L'accès à la citoyenneté, c'est toute une question juridique qui est d'une extraordinaire complexité dans l'histoire des États. Alors revenons à notre propos d'abord peut-être. Donc envisageant de réfléchir sur la notion de citoyenneté, je me suis aperçue, mais je le savais déjà, que ça n'avait d'intérêt, l'étude du terme de citoyen, de la fonction de citoyen, qu'à la condition de le penser par différence avec ce que peut être, je dis bien la condition et l'expérience des sans-droit, sans-État qu'on appelle les apatrides. Et du reste, j'ai eu la grande surprise de découvrir que dans les textes philosophiques, en particulier dans celui d'Aristote, on commençait à définir le citoyen comme un entre-deux, mais pôle de référence, entre celui qui est sans-État, parce qu'il est en deçà de toute vie politique, un fauve, et celui qui est au-delà, celui qui est au-delà de toute citoyenneté politique, qui est le Dieu, qui lui est parfaitement autonome. Donc il y a une autonomie catastrophique et belliqueuse quand on est en deçà du politique, mais il y a aussi une autonomie sublime qui est celle du divin, auquel les hommes, bien sûr, n'ont pas accès, à moins qu'ils ne se prennent comme Elon Musk, mais c'est un fantasme, pour transhumain. La question de la transhumanité, d'ailleurs, oui, je crois, peut s'inscrire dans ce questionnement. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'y reviendrai peut-être un jour.
Alors, Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, mon deuxième auteur, bien sûr. Jean-Jacques Rousseau, nous ne sommes plus dans l'Antiquité, comme avec Aristote, nous sommes dans les temps modernes. Donc, Jean-Jacques Rousseau rédige un texte, je vous rappelle, 1762, un livre d'un prestige extraordinaire qui s'appelle « Du contrat social ». Alors, je vous lis le titre au complet, « Du contrat social » ou « Principe du droit politique » par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Donc tout de suite, et dans d'autres livres aussi, Rousseau s'inscrit comme citoyen de Genève. Or, nous savons à quel point la citoyenneté de Jean-Jacques Rousseau a été particulièrement erratique vis-à-vis de la cité de Genève. Donc là, il s'agit d'une affirmation qui pose problème. Et je vous lis tout de suite l'incipit du livre 1. À partir de là, je vais construire mon propos. Né citoyen d'un État libre et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays. Alors, il me semble que tout y est.
Aimer mon pays, c'est Genève ou c'est la France ?
Ah, c'est Genève.
C'est Genève.
Ah, bien sûr, c'est Genève. Né citoyen d'un État libre, donc nous voyons bien comment la citoyenneté est liée à la naissance, à une certaine tenie, comme on dit, hein, celle qui consiste à participer à un État libre. Or, Genève est tout de même un modèle républicain, quelles que soient d'ailleurs les difficultés qu'il puisse y avoir à élaborer une véritable république à Genève. Ce sera un des problèmes de Rousseau et une des raisons de ses fuites, ses allées et venues entre la France et Genève. Je reprends. Né citoyen d'un État libre et membre du souverain. Qu'est-ce à dire ? Cette phrase définit essentiellement pour Rousseau le citoyen. Le citoyen est membre du souverain. Alors, qu'est-ce que le souverain ? Nous allons commencer par là. Hein ? Membre du souverain et quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter. Donc la citoyenneté ici, comme d'ailleurs dans l'Antiquité grecque et certainement à Rome, la citoyenneté se définit quand même par un acte fondamental que celui de contribuer par le vote à la détermination, par exemple, de la loi. Hein ? Le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Il y a donc des devoirs et pas simplement des droits qui sont alliés à la notion de citoyen. Et je continue. Heureux, toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays. Nous sommes dans le registre du patriotisme. Tout ça est lié. La souveraineté, le droit de vote, ou le droit de vote, le devoir de voter, le devoir de s'instruire précisément du principe politique qui gouverne la cité dont on relève, et puis le patriotisme.
Oui, sans employer le mot patrie, hein, qui est un mot beaucoup plus moderne.
Nouvelle raison d'aimer mon pays. Non,
le
mot patrie, le mot patrie existe à l'époque. Alors, le patriotisme, nous avons vu la situation tout à fait exceptionnelle et je disais sublime d'un apatride,
Manouchian,
qui représente l'idéal patriotique pur, une espèce de paradoxe qui vraiment a quelque chose de... Enfin, qui élève l'âme, comme on dit. Pour ça, je dis que c'est sublime.
Oui, mais Misak Manouchian avait demandé sa naturalisation en 1936. Il ne l'a pas eu parce qu'il est... Ou 37, je ne sais plus, parce qu'il 37. Était chômeur.
Oui.
Et en 40, il a fait une seconde demande, mais l'entrée des Allemands en France n'a pas permis qu'il soit naturalisé.
Oui, mais je dirais en... Revivant ce motif chez Rousseau, je voulais tout de même montrer aussi comment le statut d'apatride privait tout de même de cette relation à la patrie, de cette relation vécue avec à la patrie. Or, les apatrides, parfois, ont une relation qui demeure extrêmement vigoureuse avec leur patrie d'origine.
Bon. Mais aussi avec leur patrie d'adoption, même s'ils n'ont pas les droits, parce que... On reprend Misak Manouchian, il a été auditeur libre à la Sorbonne, il était poète, il a étudié le français. Il voulait absolument être soldat dans l'armée française. Enfin, ce pays, c'est la France aussi.
Mais je dirais, enfin, on reconnaît cette personnalité qui peut avoir un aspect paradoxal, mais qui vraiment force absolument l'admiration. Bien, alors je reviens après cet hommage qui vraiment est très naturel et très nécessaire à cet homme, à ce couple, à ceux qui l'ont suivi.
Et puis aux 22 autres résistants qui ont été fusillés en 1944.
Oui.
Mais il y en a eu des centaines qui ont été fusillés au Mont Valérien.
Oui. Je reviens à Jean-Jacques Rousseau, à l'expression qui définit pour lui la citoyenneté, qui est le fait d'être membre du souverain. Alors, qu'appelle-t-on le souverain ? Le citoyen est donc nécessairement membre actif du citoyen, et comme vous le disiez, cela est réservé aux hommes et pas aux femmes. Le souverain, eh bien, c'est la communauté politique qui est construite, qui est instituée à partir de ce que Rousseau appelle le contrat social. Alors, je suis obligée de résumer parce que c'est très compliqué. Le contrat social, une notion tout de même très très délicate, je crois, à présenter. Le contrat social ou le pacte social, mais dans l'idée de contrat, il y a une idée plus fermement juridique, c'est l'acte par lequel les hommes naturels, les hommes hors état, renoncent à leur bien, à leur puissance d'agir. Ils le font tous également, de telle sorte que ces contractants créent, encore une fois, une puissance, une, Oui, une puissance d'agir qu'on va appeler le souverain.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Hein. La souveraineté procède donc d'un
c'est
accord.
C'est pas un être, c'est pas un,
non,
non, c'est pas un homme.
Ah non, 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 non. La souveraineté définit la puissance publique. Et une puissance publique qui est encore une fois construite, instruite, instituée par un acte volontaire de cession de toutes ces, de tout ce qu'on a naturel en soi.
Oui.
Pour le donner sans réserve, à la communauté en cours de constitution.
Mmh.
Et tous doivent le faire. Et tous doivent le faire sans réserve. D'où ceci que le contrat social institue en même temps l'égalité et la liberté.
D'accord.
Mmh. Alors maintenant, quel est le lien entre le souverain et le citoyen ? Mmh. Il n'y a de citoyen que dans un État qui dispose de la souveraineté ainsi définie. Donc, le citoyen, c'est celui qui répond en participant à la souveraineté. Et il est en même temps le sujet des décisions qui sont prises par la communauté politique, dans la mesure où il est aussi, et paradoxalement peut-être, il en est un membre actif.
Oui.
Alors, je vais vous lire le passage très très connu. Donc, avant même l'analyse de la souveraineté, juste, si j'ose dire, après la fondation de la communauté politique par le contrat social, entre parenthèses, le pacte social, c'est un pacte implicite. Hein. Mmh. Il ne renvoie pas nécessairement et pas du tout dans le contrat social, ce livre-là, à un état de nature. Hein.
Mmh.
Bon. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres personnes, prenait autrefois le nom de cité. Alors, bien sûr, référence à Aristote, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif. État, puissance, donc l'État, ça renverrait peut-être à l'appareil administratif de l'État,
ouais.
Et souverain à ceci que, qu'il y a dans l'État, la dynamique précisément de la définition des lois. Nous allons revenir à la question de la loi. Donc je reprends, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Il prenait autrefois le nom de cité, il prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif. Puissance en le comparant à ses semblables. Puissance, puisque les relations internationales sont des relations entre puissances. À l'égard des associés, ils prennent collectivement, donc les citoyens, le nom de peuple et s'appellent en particulier citoyens comme participants à l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre. Il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans leur précision. Revenons sur ce point. Les citoyens, donc, participent à l'autorité souveraine. C'est-à-dire, les citoyens participent essentiellement par leur vote à la définition des lois qui régissent la cité. Mais un problème se pose. Il peut y avoir une différenciation, une distinction, voire une disparité grave entre le citoyen en tant qu'individu et qui vise ses intérêts particuliers et le citoyen en tant que membre du souverain qui doit, grâce à la raison, viser au bien commun. Bon, la question se pose parce que il peut y avoir non seulement divorce, mais incompatibilité entre les deux. Et ce que nous dit Rousseau, formule très très violente, si effectivement le citoyen ne se plie pas à l'idéal commun, on le forcera d'être libre. Donc, on le forcera d'être libre puisque la raison commande. La raison commande évidemment le bien public. Alors, une petite remarque tout de même. Lorsque Rousseau traite du souverain, il explicite très très bien cette idée selon laquelle lorsque la communauté politique pense la loi, agit en fonction de définir la loi n'est pas immuable. Les lois sont amendables, révocables. Il y a donc toujours une certaine souplesse, une dynamique de la loi qui fait que l'idée de citoyen n'est pas aussi coercitive qu'on imagine. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais en venir, bien sûr, à l'œuvre qui a vraiment motivé cette réflexion, et en particulier une œuvre qui est consacré à la question de l'apatridie.
Oui, parce que je me faisais la remarque, là, Jean-Jacques Rousseau parle surtout du citoyen, alors que votre titre était « Le citoyen et l'apatride ». Donc, nous allons écouter dans cette seconde émission un autre grand musicien apatride, Stravinsky. Alors, on n'a pas choisi les œuvres très connues de ballet, L'oiseau de feu, Petrouchka, etc. On a choisi, enfin, Louis a choisi Orpheus. Nous écoutons et nous nous retrouvons après. Alors sur Radio Alliance Plus, François Gernot reprend son développement sur le citoyen et l'apatride avec le livre d'Hannah Arendt, hein, aux origines du totalitarisme, donc qui est la somme, hein, vous avez 1600 pages.
Publié en 1951 et en langue anglaise. Alors Hannah Arendt donc est née en Allemagne, elle a fui l'Allemagne en 1933 en tant que juive, bien sûr, elle a anticipé la catastrophe qui pointait tout de même, elle se réfugie en France, elle est apatride, elle est internée au camp de Gurs, dont elle peut s'évader. Et donc, elle réussit à joindre les États-Unis. Vous savez, c'est la fameuse expédition de Varian Fry, hein, qui a permis aux intellectuels européens de s'échapper à l'horreur. Voilà. Donc, ce dont elle nous parle, c'est de cette condition d'apatride qu'elle a vécue tout de même pendant 14 ans. Hein. Alors, je vais vous lire les lignes qui me paraissent les plus intéressantes pour qualifier justement l'expérience, alors, telle qu'elle a vécue, mais surtout telle qu'elle l'a extraordinairement bien théorisée.
Hein. Avec tout de même une émotion sous-jacente.
Alors, il y a une émotion, mais l'émotion chez Hannah Arendt, quand il s'agit de quelque chose qui la tient très personnellement à cœur, l'émotion se traduit par l'ironie.
Oui.
Par une rhétorique de l'ironie. Bon, alors je lis. Qu'en est-il donc de la condition, je dis bien de la condition de ces sans-patrie, hein, Heimatlos à l'époque, qui détermine évidemment un monde ou une absence de monde très particulière. Le grand malheur des sans-droits, sans patrie donc sans droit. Hein? Le grand malheur des sans-droits n'est pas d'être privé de la vie, de la liberté et de la recherche du bonheur, ou encore de l'égalité devant la loi et de la liberté d'opinion. Formule qui était supposée résoudre les problèmes à l'intérieur de communautés précises. Donc, vous voyez bien comment le malheur des apatrides n'est pas, d'être privé des grands thèmes des droits de l'homme. Il y a toute une critique très violente des droits de l'homme. Alors, je résume en un instant. Pour Hannah Arendt, la déclaration, j'ai bien la déclaration des droits de l'homme, est vaine, parce qu'elle n'a de sens. Elle parle de l'homme en général, de l'homme universel, mais c'est un homme nu. La déclaration des droits de l'homme n'a de sens à s'appliquer que s'il y a un État et un État-nation pour, justement, que ces droits soient non seulement protégés, mais mis en œuvre. Alors ça, c'est tout à fait important, cette critique très ironique, aussi très violente, d'une déclaration des droits de l'homme qui tombe dans le vide. Les droits de l'homme, donc, monnaie, la liberté, la recherche du bonheur, c'est le terme américain, la poursuite du bonheur, hein, c'est dans la Constitution américaine, l'égalité devant la loi, la liberté d'opinion. Formule qui était supposée, je me répète, résoudre les problèmes à l'intérieur des communautés précises. Mais le grand malheur des sans-droits, c'est d'avoir cessé d'appartenir à une communauté tout court. Et ce que nous dit Hannah Arendt, c'est bien sûr, et nous voyons bien en négatif ce que peut être la citoyenneté, c'est que les apatrides n'ont plus aucun droit, à la limite, à s'insérer dans les collectivités politiques qui constituent l'humanité. Ils sont des hommes, mais cette humanité, en quelque sorte, est privée de droits. Hein, wow.
C'est l'exclusion.
Alors, non seulement ils sont exclus, mais leur exclusion, c'est essentiellement une exclusion de ce qu'elle appelle le droit d'agir.
Ouais.
Ils sont, en quelque sorte, soumis. Et un peu plus tard, elle montre comment la survie même, avant qu'ils ne soient exterminés, puisqu'il y a eu l'étape, qu'en internement, qu'en d'extermination, qu'en internement, qu'en extermination, et ça a suivi leur mise entre parenthèses par rapport aux nations.
Hein. Oui, parce qu'avant, ils étaient exclus aussi de...
Oui, alors cela concernait publique. Les apatrides, très très vite, les apatrides ont concerné d'abord les Russes, qui ont fui la Russie soviétique, les Arméniens qui ont 1915, survécu, oui. qui ont survécu à cet atroce génocide, et bien entendu, est-ce eux par excellence, les masses juives. Hein? Donc ça représente quelque chose de très précis. Et je n'ai pas le temps d'en parler, mais aux apatrides a été conféré un passeport spécial qui leur permettait au moins au début de circuler de pays en pays, qu'on a appelé le passeport d'Hansen. Je n'ai pas le temps d'en parler, hein? Malheureusement. Alors, ce que je veux dire avant d'en conclure peut-être un peu trop rapidement, c'est que Hannah Arendt insiste vraiment sur la définition du citoyen comme celui qui agit dans la vie politique. Ouais. Alors, dire que les apatrides ont été privés d'action politique, elles-mêmes, hein, qui a participé à la résistance, et en particulier au sauvetage de jeunes enfants juifs vers la Palestine. Elle a d'ailleurs sur la Palestine et la création d'Israël des vues qui sont pour le moins peu orthodoxes. Quant à la personnalité dont nous parlions,
oui, il a Manouchian, agi bien
Manouchian
bien qu'à patrie,
il agit. Manouchian et la plupart de ses compagnons étaient d'origine juive, la plupart d'entre eux.
Souvent des Polonais, aussi, mais il y avait aussi des Italiens, des Espagnols.
Étaient aussi des apatrides. Oui. Hein. Elle parle aussi justement des Espagnols et de toute la lutte des Espagnols contre le franquisme. Hein. Elle parle des brigades internationales. Oui. Voilà. Donc dire que les apatrides ont été privés d'action politique n'est pas tout à fait juste, mais c'est justement contre cette incapacité cette acosmie, comme elle dit, cette absence de monde, que certains d'entre eux ont vigoureusement lutté, dont elle, et puis bien sûr, nous venons de parler de Manouchian. Voilà. Cela dit, si effectivement l'humanité, enfin l'homme, est essentiellement un animal politique, elle cite bien sûr Aristote, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours dans l'humanité, qu'il y a toujours dans chaque individu participant de l'humanité, une sorte de réserve d'individualité personnelle, dont doit tenir compte aussi les États, parce que d'une certaine manière, c'est la ressource de leur dynamique. Un mot de conclusion, pour Hannah Arendt, je le disais à l'instant, la vie politique, la présence au monde, la présence active au monde est évidemment la condition même, c'est la condition humaine elle-même. Il n'en reste pas moins qu'il y a, je dirais, une réserve de sens et de dynamique, permettez-moi de me répéter, précisément dans ce qu'elle appelle l'arrière-plan obscur du strictement donné. C'est-à-dire que des choses nous sont données, des talents, parfois des génies, des incapacités, qui font en quelque sorte, dans leur diversité, pour chacun d'entre nous, qui finissent tout de même par faire une ressource pour que la vie politique ne soit pas inerte. Et que dit-elle ? Elle ajoute, c'est presque la fin, « Sans aucun doute, partout où la vie publique et sa loi d'égalité seront complètement victorieuses, et on pense au système totalitaire, et par exemple au système soviétique, partout où la vie publique et sa loi d'égalité seront complètement victorieuses, partout où une civilisation parviendra à éliminer ou à réduire à son degré minimum l'arrière-plan obscur de la différence. » Elles finiront par se pétrifier et par être punies, si l'on peut dire, pour avoir oublié que l'homme n'est que le maître et non le créateur du monde.
Donc c'est une conclusion tout à fait adaptée au contexte actuel, aux guerres actuelles, qui nous permettent de conclure sur une note d'espoir. On en a besoin.
J'aurais pu terminer sur l'idéal cosmopolitique, qui reste un idéal, mais j'avoue que les temps obscurs que nous vivons, pour citer aussi Hannah Arendt, me désarçonne quelque peu.
Oui, bon, je rappelle, vous avez fait deux émissions, Résister au désarroi, que vous pouvez écouter en podcast sur notre site et dans nos archives. Merci Françoise et à bientôt.
Je vous remercie.
Vous écoutez Radio Alliance Plus.